Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions basée sur le thème « Dieu est amour ».
Lors de cette émission, nous aborderons pour la deuxième fois la question « Comment peut-on parler d'un Dieu d'amour alors que nous vivons dans un monde où le malheur et la souffrance sont en présent ?» Flavien est de retour parmi nous pour nous répondre. La dernière fois, nous avons compris que la souffrance est entrée dans le monde en conséquence de la désobéissance des hommes. Et la souffrance est le symptôme bien présent, montrant que les relations entre Dieu et les hommes ne vont pas. Car les hommes, un jour, ont tourné le dos à Dieu pour suivre leur propre chemin. Mais selon la Bible, Dieu a exprimé son amour envers eux, non en enlevant toute la souffrance dans notre monde, mais en s'attaquant à la racine du problème. Car Jésus-Christ, en s'offrant en sacrifice sur la croix, a réglé le problème du péché. Désormais, Dieu peut nous pardonner et nous pouvons être réconciliés avec lui. C'est ainsi que Dieu a exprimé son amour envers nous. Mais alors, le croyant qui souffre d'injustice ou de diverses épreuves peut se demander, est-il vrai que Dieu m'aime? Dieu est-il réellement amour? Flavien, comment répondre à de telles interrogations?
Bonjour Yann et merci pour cette introduction et pour cette question. Il est vrai que la souffrance dans la vie du croyant suscite de nombreuses interrogations. Toutefois, il faut être prudent et ne pas avoir à ce sujet des idées erronées pouvant influencer nos attitudes.
Et lesquelles, par exemple?
Eh bien, il est relativement commun de penser qu'il existe toujours un lien direct entre la souffrance qu'une personne vit et un péché qu'elle aurait commis. Ainsi, lorsque quelqu'un rencontre une épreuve particulièrement difficile, beaucoup ont tendance à se demander « qu'a-t-il fait pour mériter cela ?» Et même lorsque nous souffrons, nous pouvons nous demander « pourquoi ? Qu'ai-je fait de si mauvais ?» Autrement dit, nous pouvons voir dans la souffrance un signe de la désapprobation de Dieu et nous pouvons en conclure qu'il ne nous aime plus.
Et selon vous, cette conclusion n'est pas forcément juste.
Bien sûr, la Bible enseigne très clairement qu'il n'y a pas forcément de lien direct entre le péché et la souffrance. Le livre de Job aborde ce problème. Job a terriblement souffert. Il a perdu tous ses enfants dans des circonstances tragiques et violentes. Il a perdu toutes ses richesses, tout d'un coup, à cause de catastrophes terribles. Et puis, pour couronner le tout, il est tombé malade. Alors, les amis de Job sont venus le voir. Et ils manquèrent incroyablement de tact. Ils ont commencé à affirmer que si Job souffrait autant, c'est parce qu'il devait y avoir un péché caché dans sa vie, contre lequel Dieu exprimait sa désapprobation. Toutefois, Job se défendait. Il assurait qu'il était un homme juste, et que les épreuves qu'il subissait étaient tout à fait démesurées si elles provenaient d'un châtiment de Dieu. Le livre de Job contient les longues discussions, voire les disputes, entre Job et ses amis à ce sujet-là.
Et quelle est l'issue de ce livre? Qui donc avait raison?
Dieu s'est révélé à Job vers la fin du livre. Et concernant notre question pour aujourd'hui, nous pouvons en tirer les conclusions suivantes. D'abord, Dieu a donné raison à Job. Son péché n'était pas la cause de ses épreuves, ni de sa souffrance. Dieu a défendu Job. Il était un homme plutôt juste, et sa souffrance n'était ni une preuve de la désapprobation de Dieu, ni un signe que Dieu ne l'aimait plus.
Si donc Job n'a pas subi un châtiment à cause de ses fautes, pourquoi a-t-il souffert?
Eh bien, Dieu révèle dans le livre de Job que le monde est bien complexe et que l'intelligence et les raisonnements humains sont bien limités. Ils ne parviennent pas à cerner les mystères profonds de l'univers. La place de la souffrance dans le monde fait partie de ces mystères insondables. Nous pouvons comprendre certaines choses, les vérités que Dieu a choisi de nous révéler. Cependant, nous devons reconnaître nos limites et accepter par la foi que malgré toutes les épreuves qui peuvent nous affliger, Dieu continue de nous aimer et il interviendra un jour pour définitivement faire disparaître le malheur de notre existence.
Est-il donc vrai que même si les épreuves que nous pouvons vivre ne sont pas forcément liées à notre péché, il peut arriver que nous souffrions à cause de fautes que nous aurions commises?
Oui, c'est tout à fait juste, Yann. Quelquefois, lorsque nous commettons une faute, nous en récoltons les conséquences. Et parfois, les conséquences sont lourdes à porter. Citons la terrible maladie du sida pour exprimer la complexité de ce vaste sujet de la souffrance. Nous savons que beaucoup de bébés naissent avec la maladie du sida. Dans ce cas, il est clair qu'ils n'ont jamais rien entrepris de mal pour l'attraper. Leur souffrance est le résultat du péché de notre personne. Et cette personne n'est pas forcément leur mère. Savez-vous qu'il se trouve beaucoup de femmes fidèles, à grande moralité, qui ont attrapé cette maladie à cause de leur mari, qui pratiquent, eux, l'immoralité? Ainsi, lorsque nous examinons les cas de la maladie du sida, nous réalisons que l'origine de la souffrance est fort complexe. Aussi, il ne nous appartient pas de condamner les victimes du sida. Et il est injuste de le faire. Nous ne devons pas exclure ces personnes de la possibilité de recevoir l'amour de Dieu. La souffrance des autres ne doit pas susciter en nous le mépris ou les préjugés, mais plutôt la compassion, à l'exemple de Jésus-Christ.
Merci Flavien pour ces précisions importantes. Je voudrais maintenant poser une autre question, peut-être la dernière pour aujourd'hui. Selon la Bible, Dieu peut corriger son peuple, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, pour les fautes qu'ils ont commises, et cette correction implique alors l'épreuve et la possibilité de souffrir. Comment comprenez-vous cela?
Vous avez raison, Yann. Dieu peut corriger ceux qui refusent de lui obéir. Cependant, nous ne devons pas pour autant en conclure que Dieu n'est pas amour. La correction est une expression, parmi beaucoup d'autres, de l'amour de Dieu. Beaucoup d'entre vous avez des enfants. Il vous arrive de les corriger lorsqu'ils ont fait des bêtises. Cela signifie-t-il que vous ne les aimez plus? Bien sûr que non. La correction et la discipline aident l'enfant à comprendre le bien et le mal. La correction vise à protéger l'enfant des pires conséquences de leur faute. La correction aide l'enfant à acquérir une plus grande maturité et elle vise à le préparer à l'âge adulte. Il en est de même dans le cadre de notre relation avec Dieu. Dieu peut nous corriger afin que nous prenions conscience d'être sur un chemin mauvais et désastreux. La correction est nécessaire pour encourager notre progrès sur le sentier nous conduisant vers une plus grande maturité spirituelle. La correction de Dieu revêt un caractère positif. Elle est une expression de son amour. Et nous ne devons pas en conclure, si nous souffrons, que Dieu ne nous aime plus.
Merci Flavien. Nous avons abordé la question de la souffrance sous plusieurs angles différents, mais pour chacun, nous arrivons à la même conclusion. Nous ne devons pas déduire, du fait de la présence de la souffrance dans notre monde, que Dieu n'est pas amour. Nous devons reconnaître nos limites, avouer que nous ne pouvons pas tout comprendre, et mettre notre confiance en l'Éternel, qui, en son temps, accomplira tous ses desseins d'amour en nous.
C'est tout à fait juste, Yann. Et je voudrais terminer avec la pensée suivante. Nous ne gagnons rien à conclure que Dieu n'est pas amour. Cette pensée ne réglera en rien le problème de la souffrance et ne pourra qu'aggraver nos sentiments de désespoir. La souffrance nous confronte à la tentation de nous révolter contre Dieu. Mais sachez-le, si nous nous éloignons du Seigneur, nous nous priverons de son amour et nous en serons les grands perdants. À travers la souffrance, notre foi est mise à rude épreuve. Mais si nous mettons notre confiance en l'Éternel, il nous prouvera son amour fidèle de diverses manières. Mieux vaut, dans l'épreuve, tout souffrir, en sachant que Dieu est avec nous, que de souffrir seul, sans aucun appui spirituel et perspective éternelle.
Actuellement, lors de nos méditations bibliques, nous nous penchons sur l'Évangile de Jean, et notamment sur les textes où Jésus annonce « Je suis ».
Dans un premier temps, Hélène va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, les versets 25 et 26. Puis nous laisserons la parole à Jo, qui nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
En déclarant « Je suis la résurrection et la vie », Jésus affirme qu'il est le maître de la vie et de la mort. De plus, il ose faire une promesse qu'à ma connaissance, nul n'a osé jamais prononcer. Il ressuscitera toute personne qui croit en lui, et une fois ressuscité, ces personnes ne mourront plus jamais, car ils vivront éternellement avec lui. Peut-on vraiment croire à de tels propos ? Jésus a-t-il pu prouver que ces paroles étaient vraies ? En fait, le jour où Jésus a prononcé ces paroles, il a accompli un miracle montrant que véritablement, il était le maître de la vie et de la mort. Lazare, un de ses amis, était mort depuis quelques jours. Or Jésus s'adressa à Marie, la sœur de Lazare, et lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il allait avoir l'occasion de démontrer aux hommes la véracité de ses propos. De fait, quelques minutes plus tard, Jésus se rendit devant le tombeau de Lazare. Là, on y roula la pierre, et Jésus s'écria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et Lazare sortit du tombeau vivant. Ainsi, Jésus prouva qu'il était effectivement le maître de la vie et de la mort. Or, quelque temps plus tard, Jésus lui-même fut mis à mort, exécuté par l'État romain. Il fut cloué sur une croix. Les soldats, pour s'assurer qu'il était réellement mort, transpercèrent alors son côté d'un coup de lance. Puis, il fut placé dans un tombeau. Et pourtant, 3 jours plus tard, ce tombeau était vide, et de nombreuses personnes l'attestent. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Voilà la preuve par excellence que Jésus est réellement le maître de la vie et de la mort. Lui-même est ressuscité et il vit désormais pour l'éternité avec Dieu. Un mort ne pourrait jamais faire en sorte que d'autres puissent ressusciter. Mais Jésus est vivant et il a donné suffisamment de preuves pour que nous puissions croire avec une confiance entière en sa promesse de la résurrection.
Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a vaincu la mort sur la croix. De plus, il nous accorde de vivre éternellement avec lui si nous croyons que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés.
Ainsi s'achèvent nos 2 séries actuelles. Nous remercions Flavien et Jo d'avoir apporté leur contribution à nos émissions. La prochaine fois, nous écouterons un témoignage fort étonnant.
Nous vous donnons donc rendez-vous lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.